Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local pour cette nouvelle semaine d'émissions autour de l'actualité en Mayenne. Et oui, premier jour des vacances peut-être pour certains d'entre vous, mais l'émission, elle, se poursuit. Aujourd'hui, on va parler des formations proposées aux professeurs des écoles et aux enseignants de manière générale, réalisés justement juste avant les vacances pour pouvoir préparer leurs cours à la rentrée, mais aussi un petit peu tout au long de l'année. Là, on va parler formation autour de la mémorisation réalisée à Laval. Et puis, on fait aussi le point sur le sport dans le département et plus précisément le basket. Comment se porte, alors que commence la trêve hivernale, comment se portent les clubs du département? Quels sont les grands événements qui attendent le comité départemental de basket pour cette suite d'année, cette suite de saison en tout cas, et ce début d'année 2023. Réponse à toutes les questions lors de la chronique sport, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité en Mayenne avec ses supporters très nombreux hier à avoir vibré jusqu'à la fin. Ils étaient plus de 2200 supporters à l'espace Saint-Fiacre à Château-Gontier, un des fans de football et autres qui ont assisté donc à la défaite au tir au but des Bleus face à l'Argentine hier après-midi. Ils étaient près d'un millier de supporters réunis à l'espace Mayenne à Laval. En sport, toujours, la cycliste Heidi Gauguin, sacrée sportive mayennaise de l'année. C'était lors de la 18e édition de la soirée des sportifs mayennais, vendredi dernier, à l'espace Mayenne à Laval. La jeune paracycliste de 18 ans est devenue, cette année 2022, double championne du monde junior chez les valides et vice-championne du monde en poursuite individuelle aux mondiaux de paracyclisme. Ont été aussi sacrés lors de cette soirée Mathis Prodhomme, le perchiste castro-gontérien, espoir de l'année. L'équipe de l'année, sans trop de surprise, c'est l'étoile lavalloise Futsal. La personnalité de l'année, c'est Sandrine Forget, qui œuvre dans le rallycross. Et Adrien Leroux, le triathlète dernier, a été sacré master de l'année. Nouvelle dégradation des passages piétons arc-en-ciel à Laval par des tags homophobes découverts hier dans le centre-ville lavallois. La municipalité a annoncé qu'elle allait à nouveau porter plainte pour dégradation de matériel. L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit, ajoute le maire de Laval, Florian Bercot. À Laval toujours, où les feux rouges au carrefour Crossardière Béatrix de Gavre sont bien supprimés, annoncé il y a quelques jours de la ville de Laval, après consultation du comité de suivi du nouveau plan de circulation. Les feux orange clignotants qui étaient testés depuis 15 jours vont donc rester au carrefour de la rue Crossardière et du quai Béatrix de Gavre. Objectif, fluidifier le trafic sur la rive gauche. Un courrier envoyé un peu trop vite par la direction académique. Mercredi dernier, l'inspecteur d'académie de la Mayenne, Denis Valex, a envoyé donc un courrier aux parents d'élèves pour leur expliquer comment ils seraient informés en cas de coupure d'électricité et donc en cas de fermeture des écoles, sans transport scolaire, cantine ni activité périscolaire, selon ce courrier. Mais d'après le président de l'association des maires de la Mayenne, Joël Ballandreau, ce fameux courrier est parti un peu trop tôt et les communes vont trouver des solutions pour finalement accueillir les élèves le cas échéant. Une nouvelle campagne de don du sang à Laval ce mercredi, comme chaque mois, collecte mensuelle proposée au quartier férié de 15h à 19h. Sachant que on peut toujours prendre rendez-vous en ligne sur le site monrdvdondesang.efs.santé.fr. On fait une petite pause en musique. Et oui, même s'il n'y a pas de troisième étoile sur le maillot des Bleus aujourd'hui, on écoute I Will Survive des Pupini Sisters, une reprise évidemment de Gloria Gaynor.
At first, I was afraid, I was petrified, kept thinking
I could never live without you by my side,
but I spent oh so many nights just thinking how wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in and found you here with that sad look upon
place. I should have changed my stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. 'Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give, and I'll survive. I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Can't try hard to mend the pieces of my mind. But I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now someone is loving me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Or did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. 'Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give, and I'll survive.
C'est très joli, c'était, vous l'avez reconnu, I Will Survive, repris par les Pupini Sisters dans la JT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et en ce premier jour de vacances scolaires, eux planchent peut-être déjà sur leur cours de la rentrée. Et oui, les enseignants de la Mayenne peuvent se former tout au long de l'année à l'atelier Canopée à Laval, qui travaille auprès d'écoliers, de collégiens, de lycéens ou même d'apprentis. Il y a des formations sur volontariat aussi, donc proposées par l'atelier Canopée, comme ce cycle autour de la mémorisation et l'attention. Nous avons rencontré plusieurs participants à l'une de ces formations il y a quelques jours.
Bonjour, je suis Solène Monnier, médiatrice formatrice à l'atelier Canopée de Laval.
Donc vous étiez ici pour proposer un atelier autour de la mémorisation cet après-midi. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça recouvre ?
Alors effectivement, l'atelier d'aujourd'hui avait pour but de présenter un petit peu aux participants les différents types de mémoire, le processus de mémorisation, pour qu'ils comprennent mieux comment les élèves apprennent et mémorisent. Et puis le deuxième volet de cette formation, c'était justement de voir avec eux les principes de la mémorisation active et quelles activités, quels outils, quelles démarches ils peuvent mettre en place en classe pour favoriser la mémorisation de leurs élèves. Ça veut dire effectivement permettre aux élèves déjà de faire le travail de mémorisation au sein de la classe et de ne pas le laisser à la maison, ce qui était fait le plus souvent en fait. Et ça veut dire également modifier un petit peu ses modalités pédagogiques. Ça peut être par exemple en début de cours proposer des quiz pour réactiver ce qui a été vu avant, ou bien pour relever les représentations des élèves et s'appuyer dessus pour faire la suite. On peut également proposer aux élèves pour manipuler l'information qu'ils ont à apprendre, de faire des cartes mentales, des sketch notes, c'est-à-dire des petits dessins, mettre en dessin un petit peu ce qu'ils ont compris d'une notion. Donc ça leur permet en fait de manipuler un petit peu les notions, les concepts, et ainsi de favoriser la mémorisation à long terme. Les enseignants peuvent également faire attention au support qu'ils proposent, aux modalités, c'est-à-dire varier les modalités de présentation, ne pas faire que des supports écrits, mais aussi varier, proposer des activités à l'oral pour favoriser la mise en mots. Tout ça, ce sont des éléments qui favorisent la mémorisation des élèves et entre autres qui vont... aider d'autant plus les élèves à besoins éducatifs particuliers, en fait. Quel que soit l'âge qu'on a, les processus de mémorisation sont les mêmes. Et effectivement, les démarches et les outils que je propose peuvent s'appliquer à tous les niveaux. Après, certains outils ou certaines modalités vont être plus de l'ordre pour le second degré, d'autres plus pour le premier degré, mais les principes, en fait, sont les mêmes. C'est important de proposer ces formations parce que ça leur permet un petit peu de mettre à jour leurs connaissances par rapport aux recherches scientifiques. C'est-à-dire, les enseignants qui sortent de l'INSPE ont peut-être vu ces éléments-là de sciences cognitives en cours, mais c'est vrai que les enseignants plus chevronnés ou qui ont été formés il y a plus longtemps, ce sont des éléments qu'on n'avait pas forcément en formation. Et puis la recherche évolue assez rapidement. Et donc c'est bien de temps en temps de pouvoir leur proposer des mises à jour un petit peu par rapport à ce que dit la science. Les enseignants ont des classes de plus en plus hétérogènes avec des élèves à besoins éducatifs particuliers et donc c'est vrai qu'il y a une recherche de compréhension des besoins de tous les élèves et puis les enseignants cherchent un petit peu effectivement à modifier leurs pratiques et à prendre davantage en compte les besoins de chacun. Et c'est vrai que les sciences cognitives donnent des pistes qui vont aider les élèves à besoins éducatifs particuliers mais qui vont aider tous les élèves. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ces démarches-là ou ces outils-là proposés ne vont pas s'adresser qu'à un ou deux élèves dans la classe. Ça va s'adresser à tous les élèves et ça va aider tous les élèves. Ce qui aurait été indispensable pour eux, le fait de mettre ça pour tous les élèves, les autres élèves vont aussi en tirer des bénéfices, mais eux, ça va être encore plus et ils ne seront pas, je dirais... stigmatiser, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, c'est pas des choses spécifiques pour eux, c'est pour toute la classe, et eux, ils sont inclus dans la classe. Les enseignants, quand ils ont des classes très hétérogènes, parfois, ils s'épuisent en disant, bah oui, mais pour un tel, il faut que je fasse telle chose particulière, pour un tel, c'est un autre besoin, etc. Et donc, ils peuvent avoir l'impression d'individualiser et de s'épuiser. Alors que, en mettant en œuvre ces démarches et ces procédures, que ça soit pour la mémorisation, ce qu'on a vu aujourd'hui, ou à propos de l'attention qu'on a vu au mois de novembre, ça concerne tous les élèves, ça va aider tous les élèves, que ce soit ceux qui sont en réussite, qui auraient pu s'en passer, mais au moins ça les aide, et également les élèves en difficulté ou à besoin éducatif particulier. Donc la première formation fin octobre était sur le fonctionnement du cerveau mythe et réalité, donc on décortiquait un petit peu les fausses croyances qui circulent dans le milieu pédagogique ou dans la société sur le fonctionnement du cerveau et des apprentissages, avec une présentation également des quatre piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Et puis ensuite il y avait un deuxième module plus axé sur l'attention où j'ai présenté les travaux de M. Jean-Philippe Lachaud et son programme ATOL, voilà, le fonctionnement de l'attention des élèves et ce qu'on peut mettre en place en classe pour favoriser cette attention, justement. Et donc aujourd'hui et début janvier, on est plus sur une formation autour de la mémorisation. Par exemple, aujourd'hui, sur les personnes qu'il y avait, il y en avait deux qui ont fait l'intégralité des formations. Autour de l'attention, j'avais 12 personnes. Il y en avait 4-5 qui étaient déjà venus à la première. Donc voilà, ça dépend. Il y en a qui font tous et puis il y en a qui sont venus qu'aux formations qui répondaient à leurs besoins du moment par rapport à leur pratique de classe.
Bonjour, je suis Olivier Tamic. Je suis animateur au pôle individualisation de l'URMA Mayenne. donc le centre de formation professionnelle de la Chambre des métiers de l'artisanat. Je travaille au pôle individualisation, c'est-à-dire qu'on construit des parcours vraiment personnalisés pour chaque apprenant. Et ça veut dire qu'on a énormément de profils différents à gérer. La plupart vont être pris en charge par des professeurs et des formateurs en groupe. Mais pour les cas les plus avancés ou pour les cas les plus difficiles, on va être obligé de prendre des tout petits groupes, voire même des cours individuels. Et donc, à chaque cas, il faut une solution différente. Et c'est ce que je suis venu chercher ici. Je suis venu chercher de l'inspiration, chercher des exemples. C'est pour ça que le présentiel était intéressant. Chercher l'échange avec des collègues ou des gens qui vont se heurter au même problème et voir des exemples de choses qui marchent. Donc là, typiquement, ma collègue vient de proposer un principe qui je vais essayer dès le mois de janvier avec des cases, mais ça peut être aussi avec Solène la formatrice, une proposition d'exercice avec des bandelettes qui devraient pouvoir fonctionner avec un profil auquel je pense, un élève que j'ai actuellement, auquel je pense que ça peut marcher pour lui. On prend la leçon normalement, il prend très bien ses notes, mais il a un problème pour ensuite comprendre ce que le professeur va demander derrière. Le jeu, ça va être justement de créer des bandelettes pour cacher la réponse, et avec la bandelette, on marquera la question dessus. Et on va voir, il va pouvoir lire la question, soulever la question, et il aura la réponse, et ainsi de suite. Donc on va voir si ça marche, on va mettre en pratique avec lui dès le mois de janvier. Il faut vraiment chercher pour chacun comment il apprend et qu'est-ce qui va le rendre le plus à l'aise et le sortir du cadre tout simplement scolaire avec des notes et tel rendu exactement pareil pour chaque élève. Moi je suis professeur de langue étrangère au départ, donc de français langue étrangère, et donc là c'est un public que moi je découvre depuis 2 ans maintenant, qui est un public français avec des difficultés qui ne sont pas liées particulièrement à la langue, mais plus justement des difficultés d'apprentissage. Donc ce genre de formation, ça permet de trouver de nouvelles solutions et des choses que je n'ai pas appris dans des cadres théoriques au départ. Le contenu est très dense, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de notions, c'est très synthétique, et donc du coup il va falloir digérer ça pour ne pas faire des contresens, pour ne pas provoquer exactement le contraire de ce qu'on veut. Ça permet aussi de mettre quelques bornes sur des exercices qu'on peut faire très souvent. J'ai l'habitude de faire des QCM, de faire des quiz, à plus savoir qu'en faire, parce que ça marche très bien avec les apprentis. Mais je me rends compte que pour certains apprentis, le quiz peut provoquer exactement l'effet inverse. Ça peut créer plus de la confusion en les exposant à des mauvaises réponses. Et du coup, alors qu'ils avaient la bonne réponse, ils vont paniquer et ça va être la bulle à la fin. Et c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut essayer de redonner de la confiance, les reconstruire, les aider à sortir. Souvent, ils sont arrivés dans une bonne partie, en tout cas, des apprentis, dans une spirale d'échec au départ. Et ils ont une passion. Certains arrivent avec une vraie passion. Il y aura pas trop de problèmes pour eux. Ceux qui arrivent un peu perdus, savent pas très bien. Ils arrivent là un peu par erreur ou parce qu'ils n'ont plus trop le choix. La confiance un peu cassée parce que le système a été dur avec eux, parce qu'ils ne se sont pas toujours donné non plus les moyens, ou le milieu ne leur a pas toujours donné les moyens d'avancer. Eh bien, on a 2 ans, le temps de leur CAP, pour essayer de reconstruire un petit peu tout ça et les intéresser à cette matière nouvelle, très concrète souvent. Hein, c'est de la maçonnerie, c'est de l'alimentaire, c'est de la peinture, c'est du bâtiment et de la mécanique. Et de là, on va pouvoir reconstruire en fait aussi, pas simplement l'élève, mais aussi reconstruire un citoyen, un être humain.
Alors Stéphanie Gilles, moi je suis enseignante en cycle 3, CM1, CM2, sur l'école de Saint-Germain-le-Fouilloux. Et moi, ce que je venais chercher ici, c'était déjà déconstruire dans nos pratiques des habitudes qu'on a, derrière lesquelles on ne met pas forcément vraiment un sens, on n'a pas forcément pris le temps de réfléchir à toutes nos pratiques. Et puis, je viens chercher aussi des pistes pour reconstruire des outils qui seraient plus en lien avec les besoins spécifiques de nos élèves autour de l'attention et de la mémorisation. On a des enfants qui sont de plus en plus happés par plein de choses autour d'eux qui viennent mobiliser leur attention. Donc il faut essayer de leur rappeler que ce qu'on fait à l'école, c'est quand même important aussi. On a des enfants qui sortent d'une période difficile. On a des enfants qui ont des modes de vie qui sont quelquefois aussi pas facilitants pour les apprentissages. Donc comment est-ce que nous, on peut tenir compte de tout ça? Et puis en même temps, essayer de faire notre boulot et de les faire sortir de l'école avec un bagage, quoi. Bah, le fait déjà de comprendre que la mémorisation, c'est un univers qui se travaille de différentes façons, qu'il y a différents types de mémoire, que ça sollicite différents espaces dans le cerveau, que selon l'objectif que nous on veut, on va pouvoir travailler de telle ou telle façon, ça donne vraiment des pistes. Quelquefois, on se rend compte aussi qu'on demandait peut-être beaucoup de choses en fait, à nos élèves. Enfin, quand on décortique tout ce qu'on leur demande, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas espérer d'eux là, qu'ils puissent répondre à la demande telle que nous, on la formule. En fait, ça va plutôt être à nous de déconstruire, de simplifier, et puis à ce moment-là, ils vont pouvoir y répondre. C'est dense, mais voilà. On récupère les supports après. Donc, c'est juste avant les vacances, donc ça donne des envies pour les cours qu'on va préparer pendant les vacances. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, on a un retour de toute façon. C'est une formation qui peut se faire sur plusieurs moments. Donc à chaque fois qu'on a des questions, on les garde pour la fois d'après. C'est la troisième fois, moi, que je viens au final depuis la rentrée. Donc il y a quelque chose qui s'inscrit aussi dans la durée. Quand on est dans ce métier-là, bah, faut pas imaginer que la formation initiale, elle va nous suffire. L'entrée souvent des enseignants, c'est quand même, à mon avis, l'entrée des connaissances. Et tout ce qu'il y a derrière en termes de stratégie et de didactique, ça reste à construire et il faut bien une carrière pour le faire. Je suis contente, il y a des choses qui bougent, il y a des petits obstacles du quotidien qui prennent de la place et puis au final qui se résolvent avec un petit truc tout bête auquel on n'avait pas pensé, mais c'est la richesse des formations. Et puis des formations, moi j'aime bien les formations plutôt sur site parce qu'on est avec des gens aussi et puis on partage. Il y a une deuxième session sur l'attention en janvier, et puis j'avais fait... c'était sur la mémorisation en janvier, mais j'avais commencé par l'attention, et puis sur les neuromythes, en fait. Là, je suis dans mon volet des sciences cognitives un petit peu, donc je continue cette année là-dessus.
Et une autre formation donc sera proposée début janvier dans ce cycle autour de la mémoire et de l'attention, avec l'application de tout ce qui a été dit via des exemples concrets proposés par les participants. Et d'autres formations sont proposées tout au long de l'année à l'atelier Canopée, que ce soit en présentiel ou à distance, autour entre autres du design en classe, du calcul mental ou encore de la classe inversée. On va parler basket dans le département avec les premiers résultats des équipes mayennaises, mais aussi les événements à venir. Ce sera juste après Voyou avec sa chanson Les Trois Loubards.
Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'est élancée. Paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loubard? J'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ils m'ont pris mes baskets, ma veste, mes cigarettes. Pendant que je restais sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant me venaient quelques réponses bien senties que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas racket un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons qui...
qui en veulent à mon blouson.
Oh oh.
Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loupard, j'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ils en veulent à mes baskets, ma veste et mes cigarettes. J'ai pas à rester sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquette un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. J'ai sorti les violons, ils m'ont rendu mon blouson. Et même mon téléphone, j'avais toutes mes affaires, je leur ai filé ma monnaie.
Les trois loupards voyous dans l'agité du local sur l'autre radio. Et c'est l'heure de passer à la chronique sport de Steven. En cette fin d'année, un moment de trêve pour beaucoup de sportifs, que ce soit des sports collectifs ou sports individuels. C'est l'occasion de faire le point sur le début de la saison. Et on tend le micro ce lundi au président du comité de basket de la Mayenne pour parler aussi nouveautés dans les clubs et les équipes et événements à venir début 2023. Bonjour Steven.
Bonjour à tous, bonjour Marie, un plaisir de se retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique sport. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Saurin, président du comité départemental de basketball de la Mayenne. Alors tout d'abord, merci Nicolas de nous accorder cet entretien.
Merci Steven.
Tout d'abord, comment va le basket en Mayenne et comment se portent un petit peu les équipes mayennaises au niveau régional et national ?
Eh bien, c'est vrai, on est à mi-saison, période où on fait déjà un premier bilan de la phase aller. On peut constater que le basket en Mayenne va plutôt bien, des indicateurs plutôt très positifs, j'en prendrai deux. En termes de nombre de licenciés, nous sommes le département de la Ligue qui progresse le plus, on est à plus 12%. Sur les 5 départements, on est celui vraiment qui progresse. L'année dernière, 3349 licenciés en fin de saison. Là, au 17 décembre, eh bien, nous sommes à 3535, je crois, ce soir. Donc c'est plutôt bien en termes de nombre de licenciés. À ça, je rajouterais aussi le fait qu'on ait créé des clubs. Vous n'êtes pas sans savoir que Cran s'est créé donc, l'année dernière. On a Saint-Pierre-la-Cour depuis septembre. Et le petit dernier qui est arrivé cette semaine, eh bien, on aura plaisir de retourner du côté de Pré-en-Paille, club avec des capacités et un potentiel vraiment existant. Hein, deux belles salles de sport qui attendent qu'à respirer, transpirer basket. Donc vraiment plaisir de retourner du côté de Pré-en-Paille. En ce qui nous concerne nos équipes, eh bien les équipes mayennaises, c'est plutôt pas trop mal. Il faut noter que donc l'USL en National 2 ce soir, par exemple, eh bien est en demi-finale de Coupe de Territoire, puis en championnat, bah, l'USL est dans le top 5 pour l'instant. Donc c'est plutôt un bon parcours pour cette année de transition en ce qui les concerne. Au niveau de Saint-Merthevin, bien voilà, ils sont déjà à 4 victoires, je crois. Voilà, une équipe assez jeune qui a connu...
Saint-Merthevin qui évolue en N3.
Le CTC Pays de Laval, PLB, qui joue donc en National 3. Poule bretonne, bien connue, les adversaires, tout le monde se connaît bien dans cette poule. Et cela va être serré jusqu'au bout. Déjà 4 victoires pour Saint-Berthevin. Il faut continuer à travailler avec une équipe jeune, avec beaucoup de potentiel. Malheureusement, il y a eu quelques blessés pour cette équipe. En ce qui concerne le niveau régional, eh bien, au niveau régional, fortune diverse, avec très bonne mention pour les garçons de l'USL, qui en R2 sont premiers du groupe, postulent pour monter en pré-national. Pour la réserve de l'USL, ça serait une excellente chose. Au niveau des féminines, bien voilà, Sud Mayenne ce soir vient de gagner et équilibre son parcours avec 6 victoires, 6 défaites. Actuellement, la CTC Nord-Mayenne joue à la Chaise Géraud, donc pourrait aussi être dans la même dynamique de 6-6. Et les Francs Archers de Laval sont à peu près dans la même dynamique. Donc pour les clubs de R2, c'est pas mal.
Donc voilà. Un comité de basket qui va bien, tu disais que vous avez atteint les 3600 licenciés, ce qui est un résultat très positif, mais le comité aujourd'hui a rajouté une corde à son arc avec notamment le 3-3 qui se développe de plus en plus. Le comité aujourd'hui est un comité pilote au niveau national. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire un peu plus sur des projets 3-3?
Alors le 3-3, oui, est regardé au niveau national parce que nous avons la chance d'avoir un département très dynamique qui a bien compris que d'investir vers le sport, c'était investir vers la jeunesse, investir vers la société. Et nous avons été un des premiers départements à signer une convention de cette ampleur, avec quand même une trentaine de terrains qui devraient voir le jour dans les 3 ans. Déjà, une petite dizaine sortiront de terre et seront opérationnels théoriquement en juillet, je pense. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Nous, comité, on investit sur cette nouvelle pratique, hein, avec un salarié qui est arrivé en septembre, dont les missions sont en partie orientées vers le 3-3, je pense à Fabien. Et nous espérons avoir de bons tournois organisés un petit peu partout sur le département. Je sais que ce week-end, il y avait 2-3 tournois qui étaient organisés dans des clubs. Puis on a un tournoi d'une bonne envergure qui devrait avoir lieu le 21-22 juin, si je ne me trompe pas, avec l'USL à l'Espace Mayenne, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Alors, pour terminer, quels sont un petit peu les projets et les futurs événements que le comité voudrait ou pourrait accueillir justement sur l'année 2023?
Alors, sur l'année 2023, ou du moins, on va dire, jusqu'à la fin du mandat, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe est élue... Comme nous sommes une discipline olympique, nos mandats sont de 4 ans et notre mandat se terminera donc en juin 2024. Et on espère un événement majeur qui pourrait se produire en Mayenne avant juin 2024, j'espère, ou au plus tard juillet 2024, avec la réception de l'équipe de France féminine. Parce que bon, le département l'a dit, ça a été noté dans la presse, donc je peux en parler plus facilement. Mais dans le cadre de la convention que nous avons signée entre la fédération, le département par rapport au terrain 3-3, il a été aussi précisé que l'espace Mayenne devrait être un terrain d'accueil pour un match de haut niveau et avec l'équipe de France féminine. Mais avant cela, on aura un événement qui se déroulera le 3 avril prochain à l'Espace Mayenne, en partenariat avec l'USL Laval, dans le cadre du derby qui va se tenir entre l'US Laval et la Jalte en National 2, un dimanche après-midi. Eh bien, on va avoir le plaisir d'inviter tous les nouveaux licenciés qui pratiquent en mini-basket, comme nous avions fait l'année dernière, dans le cadre de l'opération Un nouveau licencié, un nouveau ballon et un événement pour couvrir tout cela. Et ça sera le 3 avril à l'Espace Mayenne.
Merci beaucoup Nicolas, nous souhaitons le meilleur pour le comité départemental de basket pour cette nouvelle année 2023 et puis on espère justement voir et promouvoir le basket sur le territoire avec un dynamisme aussi rayonnant que qu'aujourd'hui.
Le comité de basket mayennais cherche d'ailleurs encore à recruter des entraîneurs pour cette saison. Et jusqu'à jeudi a lieu pour les jeunes basketteurs et basketteuses prometteurs et prometteuses le tournoi intercomité à Vannes. Merci beaucoup Steven pour cette chronique sport qui, elle, reviendra fin janvier désormais. Et oui, puisque c'est aussi la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi à 19h. Restez avec nous bien sûr puisqu'il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de la Sagesse de Tugues ce soir. Et nous, on se retrouve demain à 12h15. J'espère que vous serez au rendez-vous et surtout, je vous souhaite une très belle journée.